Astéroïde 4810. De la tête au ciel. Chaque mois, je vous fais décoller vers une constellation du ciel nocturne. Je vous raconte son histoire, ses mythes, ses légendes et vous entraîne à la découverte des objets célestes qu'elle recèle.
My code name is Project 2501. Industrial espionage and intelligence manipulation.
Pour commencer cette nouvelle année, je vous invite à tourner les yeux du côté de la constellation d'Orion. C'est une incontournable du ciel d'hiver de l'hémisphère nord. Elle est assez facile à repérer. Son astérisme représente, dans la mythologie grecque, un guerrier, mais sa forme s'apparente plutôt à celle d'un sablier. Pour vous aider à la situer en ce moment, il faut chercher trois étoiles alignées, très proches les unes des autres, formant la ceinture d'Orion. Plus haut, brille de mille feux, Bételgeuse, l'étoile la plus lumineuse d'Orion, et épaule droite du chasseur. Géante rouge, 600 fois plus grosse et 14 fois plus massive que notre Soleil, se situant à 520 années-lumière de lui. Elle devrait être l'une des prochaines étoiles que les terriens pourront voir exploser en supernova d'ici quelques siècles ou millénaires. L'autre épaule est marquée par l'étoile Bellatrix, la guerrière, géante bleue. En dessous de la ceinture, deux autres étoiles symbolisent les pieds d'Orion. Saïf au niveau du pied droit et Rigel au niveau du pied gauche. Afin de faciliter votre chasse à la constellation, je vous conseille d'utiliser comme moi une carte du ciel ou bien les applications mobiles telles que Stellarium ou SkyMap. L'histoire d'Orion, comme de nombreux mythes, connaît de multiples variantes. Celle que j'ai choisi de vous raconter commence en Grèce, dans la ville de Thèbes, en Béotie. Mais avant de rejoindre notre héros, allons à la rencontre des chimères esquises avec l'onironaute.
Thank you.
C'était Les Chimères Exquises de Loni Renaud. Vous êtes sur Globule Radio 90.5. Bienvenue sur mon astéroïde 4810, direction la constellation d'Orion. Comme je le disais il y a quelques instants, l'histoire d'Orion commence dans la ville de Thèbes, en Grèce. Le roi de cette ville, le roi Hyrié, accueille un soir deux voyageurs avec son hospitalité coutumière. Au cours du repas, le vieux roi est ému par la sympathie et la puissance qui émanent de ses hôtes et leur confie sa peine de ne pas avoir d'enfants. Les deux voyageurs lui disent alors
« Fais-nous apporter la peau du bœuf sacrifiée pour ce repas. »
Ils sortent ensuite avec la peau du bœuf et à leur retour, ils s'adressent au roi.
« Roi Hyrié, nous voulons te donner ce fils que tu désires tant. Surveille le creux de terre sur le promontoire battu par les vagues, près de ton palais. Nous y avons enfoui la peau du bœuf avec notre semence. Il en sortira un enfant que tu élèveras comme ton fils. »
Hyrié se rend alors compte que ces deux voyageurs ne sont autres que Zeus lui-même et son messager Hermès. Il se réjouit, car les dieux ne font jamais de fausses promesses. Au fil du temps, le roi surveille le creux de terre sur le promontoire. Un jour, un enfant l'attend, un enfant déjà grand. Le roi lui donne alors le nom d'Orion, fils de la terre, mère des géants. Sa taille, sa force et son adresse à la chasse ne tardent pas à être connues de toutes les villes et de toutes les îles de la mer. Un jour, le roi Eunopion de l'île de Chios implore l'aide d'Orion car son île est dévastée par des serpents gigantesques qui se sont multipliés dans les montagnes et ravagent les troupeaux. Orion se rend alors sur l'île, où le peuple l'accueille en sauveur, impressionné par la force que dégage la poitrine du géant, droit sur ses jambes épaisses de muscles, un baudrier de cuir marquant sa taille, auquel est suspendu un long poignard et dans sa main, une massue de bronze aux éclamates. Le roi Eunopion lui dit
« Vois ces montagnes au-dessus de nos plaines verdoyantes. C'est là que les serpents ont leur repère. Certains jours, ces monstres descendent en nombre et dévorent chèvres et moutons gras avant de regagner les rochers. Ces bergers que j'ai rassemblés là vont te conduire au pied de ces montagnes. »
Orion et les bergers se mettent en route, traversent les champs et se dirigent vers les montagnes. Une fois arrivés au sommet, aucun serpent en vue. Orion lance alors des pierres au hasard pour les faire sortir de leur cachette. La terre se met à bouger et à onduler. La massue s'abat sans relâche sur les têtes menaçantes. Le poignard coupe les corps sinueux. L'île de Chios est enfin délivrée de sa peur et de sa peine. À son retour, le roi Eunopion organise un grand banquet en l'honneur du courageux Orion. Mais ce dernier, enivré d'orgueil et de vin, déshonore la belle Méropée, fille du roi. Eunopion le chasse, écrasé de honte. Plus tard, Orion se rend sur l'île de Crète, où Artémis, la déesse de la chasse, l'accueille. Elle est émerveillée par la force et l'adresse d'Orion. Il reçut d'elle un chien gigantesque, rapportant dans sa gueule toutes les proies que son maître tue. Orion dit un jour à Artémis
« Je suis capable de tuer tout ce qui est né de la terre. Je te lance un défi. Aucun être vivant ne peut échapper à mes armes de chasse. »
Ces paroles, pleines de démesure, font éclater la colère de la terre. L'île tremble. Une large crevasse s'ouvre au pied d'Orion, d'où sort un immense scorpion. Le valeureux chasseur est pour la première fois saisi de frayeur. Le monstre s'approche du géant et d'un coup de sa queue recourbée, enfonce son dard rempli de venin dans son pied. Ainsi meurt Orion. Artémis demande alors à Zeus
« En souvenir du grand chasseur, place-le parmi les constellations du ciel en compagnie de son grand chien. Quant au scorpion, il faut qu'on s'en souvienne, mais dès qu'il apparaîtra, que Orion disparaisse du ciel étoilé. »
Zeus accepte afin que l'image d'Orion rappelle aux hommes que personne ne doit avoir une confiance excessive dans ses propres forces et qu'on ne peut résister à la colère de la Terre, mère de tous les êtres vivants. Méditons quelques instants sur cette pensée accompagnée par les notes cosmiques de Blue Moon de Jean du Voyage. After the rain, I will be home way. My body wouldn't be wet, but I would be gone. After the rain, I will be home way. My body wouldn't be wet, but I would have bones. But after the rain, would I be awake? After the rain, would I see clearly? After the rain, would I be awake? After the rain, would I find you? C'était Blue Moon de Jean du Voyage. Nous sommes toujours sur Globule Radio à la découverte de la constellation d'Orion. La constellation d'Orion est un trésor d'objets astronomiques à observer, surtout lorsqu'on possède un peu de matériel. Voici les plus célèbres. Tout d'abord, avec une simple paire de jumelles astronomiques, vous pouvez observer la nébuleuse d'Orion, M42. Il faut viser la partie basse du sablier, sous la ceinture, dans l'axe de l'étoile centrale Al-Nilan. Ce nuage de gaz et de poussière est une immense structure appelée nuage moléculaire d'Orion. Il semble petit, vu de la Terre, mais il est en réalité gigantesque. Il s'étend sur environ 24 années-lumière à 1400 années-lumière de nous. Des milliers d'étoiles y sont en train de naître, certaines ayant déjà commencé à briller, tandis que d'autres sont encore embryonnaires, enfouies dans leur cocon de gaz. La nébuleuse d'Orion est en réalité la partie la plus visible, mais il y a de nombreux autres objets à contempler au sein de ce nuage. Si vous possédez un télescope assez puissant, vous pouvez le diriger plus haut, au niveau de l'étoile la plus orientale de la ceinture d'Orion, l'étoile Alnitak, où se trouvent les magnifiques nébuleuses de la Flamme, NGC 2024, et plus bas, celle de la Tête de Cheval, IC-434. En partant de l'étoile Alnitak et en remontant vers Bételgeuse, vous pouvez également admirer la nébuleuse de Casper le Fantôme, NGC 2068. Liste non exhaustive, bien sûr, à vous de continuer l'exploration de cette incroyable constellation. Un petit conseil, privilégiez pour l'observation un lieu sombre, éloigné de la pollution lumineuse de la ville. Et pensez à la Lune. Il faut connaître ses phases et l'heure à laquelle elle se lève et se couche. Plus la Lune sera gibbeuse et pleine, plus elle sera lumineuse. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour l'observation. Ce mois-ci, la pleine Lune a lieu le 17 janvier et la meilleure période pour observer le ciel est donc en début et en fin de mois. Jusqu'au 16 janvier environ, je vous invite à lever les yeux vers la constellation du Bouvier, juste à côté de la couronne boréale, pour observer la pluie d'étoiles filantes des quadrantides, dont le pic d'activité a lieu du 2 au 3 janvier, avec environ 25 météores par heure. Voilà, ce sera tout pour Orion. Le mois prochain, je vous parlerai des constellations de la Grande et Petite Ours. Ces chroniques sont inspirées du livre de Marie-Françoise Serre, Constellations et légendes grecques. Vous pouvez me retrouver en podcast sur globule.chamonix.radio et sur la page Facebook d'Astéroïde 4810. N'hésitez pas à laisser vos impressions, questions, suggestions et à me contacter si vous aussi vous avez la tête dans les étoiles et des envies de projets autour de l'astronomie.